Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciats et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors excusez ma voix un peu enrhumée, mais avec ces changements de température qui se passent en ce moment, c'est chose courante visiblement. Alors j'adresse d'abord tout d'abord une pensée particulière à Denis Sigur, qui est auteur du petit traité de savoir-vivre à l'usage de ceux qui vont mourir, qui était venu présenter ce recueil de nouvelles en mars dernier. Donc s'il nous écoute, voilà, j'ai une petite pensée pour lui. Et puis on va commencer comme d'habitude par des infos avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, dont je vous en dirai davantage tout à l'heure. Alors, pour vous rappeler que mercredi 3 juin à 19h au Muséum, l'avant-première du film documentaire écrit par Pascal Dessin, il nous en avait parlé quand il était venu le 14 avril dernier, le 14 mai dernier. Donc, ce film documentaire qui s'appelle L'Esprit des Plantes. Donc, si vous êtes par là mercredi prochain, le 3 juin à 19h au Muséum, n'hésitez pas à y aller. Ça peut être très, très intéressant. Comme vous le savez, Pascal Dessin est un fan, un passionné de plantes, d'oiseaux et puis d'environnement, de protection de la nature. L'atelier poésie proposé par Blandine Poney, c'est samedi 13 juin de 10h30 à 12h30 au troisième étage au petit auditorium de la médiathèque José Cabanis. Alors il faut s'inscrire, non pas l'entrée est libre et gratuite hein, bien sûr, mais il faut s'inscrire pour une question d'organisation. Donc je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 05 62 27 45 24, 05 62 27 45 24.
Page à page, Claire Ambille.
Et puis je vais vous présenter, avant de vous parler de mon invité toujours, eh bien, je vais vous présenter quelques livres. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter déjà un livre pour un album pour enfants qui s'appelle Le jeu de sept familles, mais sept écrit C-E-D-T-E, qui est écrit par Annie Agopian et illustré par Claire Franek et qui est publié aux éditions du Rouergue à Rodez. Alors c'est un album drôle et réaliste qui détourne un peu les stéréotypes familiaux et sur le thème de la séparation des parents, de la famille recomposée, en donnant la parole aux enfants par le biais du jeu donc de cette famille, un jeu que tout le monde connaît bien, on y a tous joué hein, quand on était petit. Et quand on a des enfants, on y joue encore. Alors, le but du jeu étant bien sûr de réunir une famille, malgré les règles du jeu qui changent, que le père et la mère se séparent, que de nouvelles cartes ou personnes apparaissent et que l'enfant peut appartenir à l'une ou l'autre famille. C'est un album qui traite avec justesse de la douleur de l'enfant qui voit ses parents donc, se séparer et de la difficulté d'accepter donc, des beaux-pères, des belles-mères, des demi-frères, des demi-sœurs, ainsi que le quotidien éprouvant de l'enfant ballotté d'un lieu à l'autre, d'une famille à l'autre. Et cet album s'est dédramatisé avec humour, il y a beaucoup d'humour dans ce livre, ce sujet de société très actuel et plutôt fréquent hein, malheureusement dans notre société. Et donc c'est à découvrir, à faire découvrir à vos bambins. Alors, les illustrations sont très colorées, elles s'adaptent parfaitement au texte et c'est vraiment très 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 sympa. Donc un album à retenir, Le jeu de cette famille aux éditions du Rouergue pour faire plaisir à vos petits. Et puis alors dans un autre registre totalement différent, hein, parce que là c'est un livre plutôt pour adultes, un livre qui s'intitule Mérine intime. Lettre de prison à son avocate Martine Malimbaum aux éditions du Rocher. Alors c'est un livre qui a été dédié à la mère de Mérine, de Jacques Mérine, à ce jour décédé et à ses trois enfants. Alors bon, je précise de suite, c'est en dehors de tout débat et de tout jugement sur l'homme et sur ses actions hein, que je présente ce livre. Après chacun pense ce qu'il veut et moi je le présente parce que bon, il faut quand même pas oublier que Jacques Mérine a écrit au niveau bibliographique, hein, je parle. Jacques Mérine a écrit deux livres en prison. Un qui s'appelle L'instinct de mort et l'autre qui s'appelle Coupable d'être innocent. Et donc, de ces deux livres, bien sûr, vous le savez, a été tiré, a été tourné le film avec Vincent Cassel dans le rôle de Jacques Mérine, hein, qui est sorti sur, au cinéma il y a quelques mois. Et donc, je rappelle que Jacques Mérine est mort le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt à Paris, et qu'il avait 43 ans. Alors, ce livre, en fait, ce sont donc ce sont des lettres qu'il a écrites à son avocate, Maître Martine Malimbaum, qui a donc été son avocate de 1976 à 1978. Elle avait alors 26 ans, elle était toute jeune dans la profession, elle débutait. Et puis donc elle recevait ses lettres de Jacques Mérine qui lui écrivait de la prison et elle les a toutes gardées et donc de, voilà, elle les avait gardées. Et le fait... avec la sortie cinématographique donc du film, eh bien, elle a relu toutes ces lettres qu'elle avait gardées depuis des années, et finalement, elle a décidé de les soumettre à la compréhension du public, et on y découvre un Jacques Mérine pudique, intime, intimiste. Pour que les parloirs sont importants pour lui avec son avocate et son source de chaleur et aussi de lien avec l'extérieur comme finalement tout lien qui unit un prisonnier derrière ses barreaux avec un peu de chaleur et humaine et de liens qui se tissent au fil des parloirs. Et donc, Jacques Mérine a mis en ligne et en poème, parce qu'il y a des lettres, et il y a aussi des poèmes. Il a écrit beaucoup de poèmes à son avocate. Et bien sûr, son avocate n'a jamais répondu à ses lettres. Hein. Déontologiquement, c'était pas possible. Et puis, elle ne voulait pas... Donc c'est à découvrir. Je voulais vous en parler parce que bon, c'est une quarantaine de lettres et de poèmes dans ce livre Mérine intime. C'est à découvrir et comme je vous le rappelle, c'est vraiment hors débat et hors tout jugement sur l'homme qu'était Jacques Mérine. Et dans ces lettres et à travers ces poèmes, on découvre un homme différent qui apparaît très différent de ce qu'on connaît de lui de façon publique, on va dire. Voilà. Alors après, on change carrément de sujet. Hein. C'est carrément un autre livre. C'est Jaurès paysan. Ça n'a rien à voir. De Rémi Pêche aux éditions Priva. Alors c'est un ouvrage qui est un essai original et inédit sur les préoccupations et l'appartenance de Jean Jaurès au monde rural. Donc l'auteur, on le rappelle, Rémi Pêche, est professeur d'histoire contemporaine et ancien président de l'université Toulouse-Lemirail à Toulouse. Oui, ben voilà, je l'ai dit. Et c'est un spécialiste d'histoire rurale. Il a publié diverses études sur l'histoire des vignerons du Midi et sur l'action de Jean Jaurès en faveur des paysans et pour la langue occitane. Donc c'est un livre, cela vous intéresse, Jaurès paysan de Rémi Pêche aux éditions Priva. Et puis je terminerai cette petite présentation de livre avec Un week-end meurtrier d'Alain Gandhi aux Presses de la Cité. Alors c'est un roman policier, hein, polar. Alors avec son pragmatisme, son bon sens et un humour certain, Joseph Combe, le personnage récurrent créé en 1997 par l'auteur, parvient une fois de plus à résoudre les énigmes les plus ardues. Alors ce personnage de Joseph Combe, eh bien, il est fort sympathique et efficace et il est en mission dans l'Aveyron, une région que l'auteur connaît bien de par ses origines familiales. Donc c'est Un week-end meurtrier d'Alain Gandhi aux Presses de la Cité. Voilà, voilà. Donc, je vous présente maintenant mon invité. Vous devez l'attendre avec impatience depuis tout à l'heure. Alors, que vous dire ? Mon invité d'aujourd'hui, eh bien, c'est un auteur français que moi, j'aime énormément, dont les écrits m'ont fait rêver à l'adolescence, que j'ai toujours gardé en mémoire et dans ma vie, et dont j'aime l'écriture un peu poétique. C'est un auteur qu'aime aussi Pascal Dessin, parce qu'on en avait parlé quand il était venu le 14 mai dernier pour présenter les chroniques vertes et vagabondes. Donc lui aussi, il affectionne cet auteur. Et c'est un auteur voyageur, aventurier, bourlingueur, donc voilà, moi, c'est quelqu'un d'important dans la littérature française. Alors, si je vous dis qu'il s'appelle Frédéric Sauzer, ça va peut-être pas vous dire grand-chose, mais si je vous dis Blaise Cendrars, là, vous allez me dire « Ah oui, d'accord ». Donc voilà, c'est Blaise Cendrars. Donc, il est né le 1er septembre 1887 en Suisse d'une mère rêveuse et éthérée, fille d'un hôtelier. et d'un père suisse, inventeur et fantaisiste qui ne tient pas en place, donc Frédéric Sauzer, hein, parce que c'est son nom officiel, avant de devenir Blaise Cendrars, se souvient de ses 1 an. J'ai vu le diable dans mon berceau sous forme d'une boule électrique qui jetait des flammes et des étincelles crépitantes et je hurlais de frayeur. J'avais 1 an. C'était le jour de mon baptême. C'était à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Maman était venue présenter son dernier né à son père. Grand-père était mon parrain. Cela se passait au vieil hôtel de la Balance. On festoyait dans la salle du bas. On valsait. On me laissait hurler dans ma chambre. Je m'en souviens bien. Je hurlais, le diable avait fini par disparaître, mais je continuais à hurler, m'entraînant moi-même, puis par jeu. Quelqu'un entr'ouvrit la porte dans le noir et m'envoya une énorme baffe pour me faire taire. Je tombais à la renverse dans mon oreiller et je ne sais plus. En tout cas, je me taisais. Petit Blaise, tu dors ou tu ne dors pas? Alors, fort de cette jeune expérience, il se débrouille souvent seul, passe une partie de son enfance en Égypte, puis à Naples avec ses parents, et livre dans Bourlinguer un de ses drames secrets entre un père et un fils. Moi, à 14 ans, je m'étais saisie d'un couteau de cuisine. C'est pourquoi je me suis mis à bourlinguer. C'était pourtant le meilleur père du monde. Voilà. Un précepteur anglais, ivrogne fiefé, fait avec lui du camping en Sicile et lui apprend à boire. À 16 ans, il fait une fugue qui ne le conduit qu'à Munich pour quelques jours où il rencontre le marchand Rogovin et devient son commis. Rogovin, vendeur de pacotille et aventurier, puis chercheur d'un vieux livre français, l'habille de neuf et lui donne un revolver nickelé pour traverser la Sibérie. De ses aventures est né le grand poème « La prose du Transsibérien ». Ensuite, il est envoyé par son père chez un correspondant à Saint-Pétersbourg. En 1905, Blaise Cendrars assiste à maints épisodes, bien sûr, de la Révolution. À 20 ans, il est en France. Il hante les milieux littéraires, se lie avec Gustave Le Rouge, auteur du mystérieux docteur Cornelius, d'où devait sortir le montage des documentaires. Peu après, il rencontre Rémy de Gourmont, dont il admire le latin mystique. L'année suivante, il reprend sa vie errante à travers Bruxelles, Londres, une vie d'images, de voyages et de petits boulots. À Pékin, et oui, il a été jusqu'à Pékin, il est soutier à l'hôtel des wagons-lits et alimente la chaudière avec de vieux numéros du Mercure de France qu'il dévore avant de les brûler. Il est chasseur de baleines, celles qui l'inspireront pour écrire Daniac. Il passe des jours à la bibliothèque de Mazarine à moderniser l'orthographe et à copier à la main des romans de chevalerie pour le compte de Guillaume Apollinaire. Il dit lui-même « De mon écriture de chat, moi, qui n'ai jamais pu me fourrer l'orthographe en tête ». Alors, il élève aussi des abeilles, il invente le sel de Cresson et a des amours avec la fille d'un scaphandrier qui l'initie à la plongée. Il est jongleur dans un cirque anglais où il devient l'ami de Charlie Chaplin. Il commence des études de médecine pour épater son père qui avait voulu le tenir dans ses bureaux. Il court les routes avec les gitans dans une roulotte, on le retrouve dans L'homme foudroyé. Et plus tard, dans une extraordinaire Alfa Romeo, il descend la Nationale 10, qui selon lui, dit-il, va beaucoup plus loin que Biarritz, par l'Espagne, le Portugal et au-delà de l'océan, jusqu'à la Terre de Feu. Il connaît aussi Al Capone à Chicago, tourne La Roue avec Abel Gance, invente une hélice pour le triplan Borel, le premier gros avion, prédit en 1926 la bombe atomique dans Moravagine, un de ses romans, mais surtout il invente la poésie moderne. En 1909, il retourne donc en Russie et c'est là que paraît traduit en russe son premier poème, La légende de Novgorod. En 1910, il part pour Anvers, New York, Terre-Neuve, Paris, New York encore, traînant dans la plus grande misère une nuit illuminée d'avril 1912, Cendrars écrit « Les Pâques à New York », long poème en vers libre qu'il ne remaniera jamais. Rentré à Paris, il y fait paraître avec ce texte 2 autres grands poèmes, la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France en 1913, et le panorama ou les aventures de mes 7 oncles, dont la parution sera retardée jusqu'en 1918. En 1914, Blaise Cendrars se marie avec une Polonaise, Fela Polzawska, qui lui donnera 3 enfants. Dès les premiers jours de la guerre, il s'engage dans la Légion étrangère. Le 26 septembre 1915, il est grièvement blessé pendant l'office de Champagne. Le légionnaire y perd le bras droit. La velléité et l'ambition de devenir musicien. La littérature y gagne avec La main coupée en 1946. Amputé au-dessus du coude, il est retourné à la vie civile. L'ancien soldat pratique tous les sports violents, apprend à sténographier et à taper à la machine. Après la guerre, il voyage à nouveau de l'Amérique du Sud à l'Afrique noire, où il est prospecteur. C'est l'époque de 19 poèmes élastiques en 1919 et de Kodak et feuilles de route en 1924. C'est aussi l'époque du cinéma, auquel Cendrars se donne avec passion, amenant au 7e art des collaborateurs aussi prestigieux qu'Arthur Honegger. Il annonce alors « Une race d'hommes nouveaux va paraître, leur langage sera le cinéma ». Et c'est de cette époque que date la période romanesque. Ses poèmes seront de moins en moins nombreux pour laisser la place à une prose très poétique où l'on trouve romans, biographies, reportages, nouvelles, où se mêlent l'exotisme, la mer, la forêt vierge, le réel et le rêve, l'étrange et la violence. Car Cendrars fut aussi correspondant de la Drôle de Guerre à Londres à la fin du terrible hiver de 1939-1940 pour mener une campagne télégraphique. Ses reportages témoignent d'une curiosité toujours en éveil, servie par une plume alerte, rapide, une arme d'une puissance d'évocation qui fait de cet écrivain un grand peintre. Ça, c'est ce que dit Louis Parot. Il faut lire ses chroniques à bord du Normandie, qui s'intitule donc « À bord du Normandie », qui sont écrites en 1935 pour Paris Soir et transmises par TSF, cette radio qui le sidère par sa nouveauté sensationnelle. Blaise Cendrars a voulu faire le voyage dans la machinerie qu'il décrit avec la jubilation d'un horloger suisse, aux côtés des soutiers, huileurs, mécanos. En acceptant le reportage, il avait confié « Ce qui m'intéresse, ce sont les machines, les tralala et les belles réceptions des gens du monde, j'en ai rien à foutre ». Alors on sait un peu que son fils Rémi s'est tué dans un accident d'avion au cours d'un exercice de tir aérien en novembre 1946, au-dessus de l'Atlas, à Meknès, au Maroc. Il y avait en lui un mélange unique de rat de bibliothèque et d'aventurier. Il semblait avoir tout vu, tout lu. Il prétendait qu'avant d'écrire un livre, il faisait la liste des mots qu'il comptait employer. Alors par exemple, 3000 mots pour l'homme foudroyé. Il prétendait avoir détruit des manuscrits inédits, en avoir caché d'autres dans des banques en Amérique du Sud, il ne savait plus où, et composait des poèmes pour lui seul qu'il ne prenait même pas la peine de noter. Alors vrai ou faux, nul ne sait, qu'importe. Mieux que cette légende, il reste de Blaise Cendrars une œuvre, en poésie et en prose, dont la grandeur ne peut être niée. C'est le ton donné à une époque, le fantastique social, le pathétique de l'homme qui se cherche dans les voyages, avec pour seul bagage la tendresse pour les autres hommes. Les mensonges de Cendrars procèdent de cette alchimie de l'esprit qui constitue l'exacte dimension de l'homme. Il ne s'agit pas d'affabulation visant à tromper, mais de la liberté que prend le poète de transformer l'image qu'il a de lui-même, de donner corps à son rêve et de faire de ce rêve la vie même. C'est ce que dit Patrice Delbourg en parlant de Blaise Cendrars. En parlant de la vie, il disait avec humour « C'est une danse macabre, j'ai trop vécu, mais je veux vivre encore l'entrée de l'actuel, du nouveau Moyen-Âge et ne pas rater l'époque atomique. J'ai même retenu ma place dans le premier train en partance pour la Lune. » Il y avait de l'humour, Blaise Cendrars. Blaise Cendrars est un grand classique de la littérature française que l'on lit et qu'on relit avec un éternel plaisir. C'est le roi des anecdotes et dévoreur de vie, c'est un grand écrivain. La mère d'un ami très cher qui m'invitait, c'est ce qu'il dit, hein. La mère d'un ami très cher qui m'invitait pour la première fois à dîner me disait avant de passer à table, j'ai lu tous vos livres, monsieur. C'est très beau, mais je n'y ai rien compris. J'avais de la peine pour elle à cause de son fils. Et quelques minutes plus tard, à table, elle renversait la salière. Et j'avais encore de la peine pour elle à cause des superstitions. Tout le monde sait que le sel renversé porte malheur et que les écrivains sont le sel de la terre. Blaise Cendrars entreprit son dernier voyage à Paris le 21 janvier 1961, où il mourut. Il partit pauvre et malade. Ses 74 années de bourlingue, d'aventure, de course à la liberté, conquise par l'écriture, ont rempli sa vie d'une richesse et d'un mouvement incomparables. Ses expériences transfigurées sont la matière vivante de son œuvre. Alors bon, son œuvre, je vais vous dire un petit peu sa bibliographie, mais avant, je voudrais qu'on écoute une chanson. Chanson pleine de beauté, d'émotion, teintée d'un peu de mélancolie. The Power of Goodbye, le pouvoir de l'adieu, pour dire tout simplement qu'il y a des personnes qui dépassent le temps, l'espace, la vie, et que l'on n'oublie pas et qu'on n'oubliera jamais. un peu comme Blaise Cendrars, comme tous les autres, qui s'y reconnaîtront. Voilà, le pouvoir de l'adieu, mais qui n'est jamais finalement, qui n'est jamais un adieu. Alors, je continue avec la bibliographie donc de Blaise Cendrars. Alors, les œuvres complètes de Blaise Cendrars sont rééditées aux éditions de Noël. Alors, il y a l'anthologie Nègre de 1921. Il y a Du monde entier, anthologie poétique de 1912-1924. Au cœur du monde, anthologie poétique de 1924 à 1929. L'or, le roman L'or, 1925. Moravagine, 1926. Daniac, Le plan de l'aiguille, 1929, Les confessions de Daniac, 1929 également, Rome, 1930, Histoire vraie, au pluriel, 1937, La vie dangereuse, 1938, D'outre-mer à Indigo, en 1940, L'homme foudroyé, en 1945, La main coupée, en 1946, Bourlinguer, 1948, Le lotissement du ciel en 1949, Trop c'est trop en 1957, À bord du Normandie, journal transatlantique, alors ça c'était réédité en 2003, un collectif avec Colette, Farrer et Wolf. Et voilà, et donc j'espère que l'évocation donc de ce grand écrivain français qui était Blaise Cendrars vous donnera ou vous redonnera envie de vous plonger dans ses écrits pleins de liberté, de poésie et de voyage, hein, ce grand aventurier. Précurseur de beaucoup de choses. Donc voilà, c'était une émission sur Blaise Cendrars. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis pour vous dire également que la semaine prochaine, eh bien, le 4 juin, je recevrai Serge Rouet et Dalia Hassan qui nous présenteront le programme du Marathon des mots, 5e édition, qui se déroule à Toulouse du 10 au 14 juin prochain et dont Alexandrie et Le Caire seront les villes invitées pour cette année 2009. Et puis le jeudi 11 juin, je recevrai Pierre Lecause pour son recueil de nouvelles « L'autre versant du jour ». Ensuite, le jeudi 18 juin, je recevrai Jacques Doualin, qui est éditeur pour les éditions La Girandole, fondateur de La Girandole et qui est aussi écrivain, donc il nous présentera son premier roman également. Et puis je terminerai la saison de cette année là, avant de reprendre en septembre, avec le 25 juin, la dernière émission donc de cette saison, avec Denise Epstein, qui est la fille d'Irène Nemirovski, pour son livre « Vivre et survivre » aux éditions de Noël. Et puis ben, je vous laisse en compagnie de Maëlle et de son émission « Libresse d'Occitanie ». Et puis je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, jeudi 4 juin. Bonne semaine à tous et à Dissiat. Boop-boop-be-doop.